Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. À Madagascar, investiture du tout nouveau Premier ministre malgache Christian Ntsay, aujourd'hui à Antananarivo, la capitale. Ma priorité est la préparation d'une élection présidentielle inclusive et acceptée par tous, a déclaré M. Ntsay lors de la passation de pouvoir à Antananarivo avec son prédécesseur Olivier Mafali Solodnan Nadrasan. Plus de détails sur les plans du chef du gouvernement malgache avec Jacques Aristide.
Christian Ntsay, haut fonctionnaire international, doit former un nouveau gouvernement dit de consensus après injonction de la Cour constitutionnelle. Le MAPAR de l'ancien chef de l'État, Andra Joël, a revendiqué la paternité de sa nomination alors que les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanan dénoncent un acte accompli sans consultation. Les élections générales étaient prévues en novembre et décembre, mais la haute Cour constitutionnelle a imposé qu'elles se déroulent avant septembre. Les anciens présidents Ravalomanan et Rajoel ont déjà laissé entendre qu'ils vont se lancer dans la course. En revanche, le président R. Rajonar Mampian, dont l'opposition réclamait la démission, n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un autre mandat.
Afrique australe toujours, au Mozambique, 7 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines de maisons brûlées dans une attaque attribuée à un groupe islamiste actif dans la région. Le point avec Marie Benson.
Dans le village de Naoudé, 7 personnes ont été tuées avec des machettes et 164 maisons ont été brûlées lors d'une attaque qui a fait aussi 4 blessés. Selon le porte-parole de la police mozambicaine, Inacio Dina, le groupe djihadiste pourrait être le même qui avait décapité des villageois le 27 mai dans la même région. Le groupe de musulmans radicaux connu sous le nom de Al-Shabaab avait tué 10 personnes. La police affirme que 9 membres de ce groupe ont été tués. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être des proches ou sympathisants ont été arrêtées depuis octobre.
Agitation anglophone au Cameroun maintenant. Des anglophones de la province du Nord-Ouest ont fait 18 propositions visant à sortir le pays de la crise en zone anglophone. Des recommandations préparées par plus de 800 personnes, notamment des responsables politiques et des autorités administratives et traditionnelles, ainsi qu'un échantillon représentant la population, qui ont préparé à Bamenda, chef-lieu de la province anglophone du Nord-Ouest, à une concertation baptisée « Mission d'écoute des populations » à l'initiative d'une commission créée par le président Paul Biya. Parmi les suggestions de cette commission, pour la promotion du bilinguisme et du multipartisme, l'ouverture d'un débat sur l'instauration du fédéralisme et l'abrogation de la loi sur le terrorisme. La quasi-totalité des anglophones arrêtés depuis le début de la crise en 2016 le sont sur la base de cette loi et encourent la peine de mort. Les membres de la commission ont aussi dénoncé la marginalisation des anglophones et l'injustice dont ils se disent victimes, en particulier dans le système éducatif et administratif. Au Congo-Brazzaville, 3 militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol, dont le coordonnateur Frank Nzila Malembe, ont été libérés mardi dans la capitale après avoir été détenus pendant près de mois. Ces militants ont été arrêtés alors qu'ils menaient une campagne appelant à la libération des prisonniers politiques. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Tout a commencé dans la matinée de mardi lorsque les leaders de la société civile conduite par l'OCDH ont entamé des démarches auprès du directeur général de la police, le général Jean-François Ndengue, et du ministre de la Justice, Ange-Aimé Bininga, demandant la libération des jeunes du ras-le-bol. C'est en fin de journée que ce plaidoyer spontané a porté ses fruits. D'après Trésor Dilakende, qui a reçu les assurances fermes du ministre de la Justice, les autres membres du ras-le-bol arrêtés le 7 mai à Pointe-Noire devaient être libérés dans un bref délai. Franck Dila Malembe et ses deux compagnons ont été arrêtés en plein quartier Poto-Poto alors qu'ils menaient une campagne d'affichage des Fiji et dont le message appelait à la libération des opposants politiques en détention. Cette libération intervient alors que s'est ouvert lundi à Brazzaville le procès des compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC voisine, les partisans du président Joseph Kabila réaffirment leur attachement au respect de la Constitution face aux opposants qui mettent en garde contre un possible troisième mandat de la part du chef de l'État. Les explications du porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu.
sur le procès d'intention que leur voudrait prêter et au président et à la majorité, parce que depuis que le président de la République a déclaré devant le Congrès qu'il allait respecter la Constitution en ce qui concerne les dispositions concernant un chef d'État, eh bien, on n'a enregistré aucun acte de nature à entraver ou à contredire cette déclaration officielle. Et donc, tous les gens qui parlent d'un troisième mandat, d'une démarche, etc., mais je crois qu'ils font plus de la provocation. Je ne suis pas loin de soupçonner ces gens-là de n'avoir pas les moyens de se préparer aux élections pour distraire l'opinion par des rumeurs de ce genre.
Andrea Léa Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé mardi soir à un remaniement ministériel en nommant plusieurs de ses proches, notamment un de ses avocats, au ministère de la Justice. Maître Séverin Kenoum remplace Joseph Djokbenou, lui aussi un avocat du chef de l'État qui est en poste depuis avril 2016 dans un contexte de grogne sociale dans le secteur judiciaire. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, est nommé ministre des Infrastructures et des Transports. Il est remplacé par Benjamin Ignace, un agrégé en gynécologie obstétrique. Et toujours au Bénin, le gouvernement interdit le commerce illicite des produits pétroliers dans les circuits non officiels. Qu'est-ce qui va changer avec cette énième interdiction? Réponse avec Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud à Cotonou, au micro d'Irénée Herman Umbo.
Qu'est-ce qui va changer? C'est que si le pouvoir décide d'appliquer réellement cette loi, on n'aura plus ces étalages de bidons au bord des voies qui jonchent les voies, les rues de Cotonou et les grandes agglomérations du Bénin. On n'aura plus ça et tout le monde sera obligé d'aller vers les stations. C'est ce qui va changer.
Alors, mais la loi existait déjà. Qu'est-ce qui empêchait son application?
C'était pas réellement une loi, c'était un décret, donc une décision prise par un président de la République, un très vieux décret, et son application, on l'avait appliquée. Vous avez constaté que sous le régime de Boni Yayi, que sous Kérékou, et la fin de Kérékou, il y a une répression contre ce commerce-là. Porte Novo en garde les séquelles avec des soulèvements un peu partout dans cette ville qui est quand même championne dans ce commerce. Au Bénin, ce qui manque le plus, c'est les stations. C'est maintenant qu'il y a une politique de mise en place des stations-service au Bénin. Au regard de cet état de choses, c'était un peu difficile d'appliquer les tests en matière de répression de commerce illicite de produits pétroliers.
Il y aura un impact énorme sur l'économie puisque beaucoup de personnes vivent de cette activité de vente de carburant frelaté. Que vont-elles devenir à présent? Y a-t-il des dispositions de la loi dans ce sens?
Forcément, il y aura un impact sur l'économie parce que le commerce illicite de produits pétroliers, c'est la plus grosse économie du pays. Il n'y a pas cette rue au Bénin où on ne voit pas les étalages d'essence communément appelés. C'est la plus grosse économie. Et la proximité avec le Nigeria, la parité CFA Naira aussi a facilité la chose. Et ça absorbe un grand nombre de chômeurs. Ça absorbe un grand nombre. Donc, tant bien que mal, on fermait les yeux sur ça parce que ça réglait aussi un problème social. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sur là? Moi, je ne pense pas que la loi a voté. Il faut le dire, ce n'est pas spécifiquement voté pour le trafic illicite des produits pétroliers. C'est le code pénal qui a été toiletté. La loi n'a pas prévu de mesures pour ça. Au contraire, la loi a prévu des sanctions pour ceux qui continueraient à s'employer dans ce commerce-là.
Raoul Oussounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud, joint à Cotonou, au Bénin. La Cour internationale de justice tranche aujourd'hui le différend entre la France et la Guinée équatoriale qui entretiennent des relations tendues. C'est à la suite de la condamnation du vice-président équato-guinéen par un tribunal français pour avoir mené un train de vie somptueux avec des fonds publics. Théodorine Obiang est accusée d'avoir pillé les caisses de l'État et avoir acheté des propriétés luxueuses dans les endroits les plus chers du monde. Soudan, le président soudanais Omar al-Béchir a offert ses bons offices aux belligérants du conflit au Soudan du Sud voisin. Il a proposé d'accueillir des pourparlers de paix. L'offre du président Béchir a été remise à son homologue sud-soudanais par une délégation qui s'est rendue à Djouba hier mardi. Rappelons que le Conseil de sécurité a menacé jeudi dernier les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud qui ravage le pays depuis 4 ans et demi. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.